m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, vous connaissez la formule, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le quotidien de la France droite et Jocelyn aux manettes. C'est parti pour 2 heures avec ce soir deux voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays et des autres aussi, des pays avec lesquels il traite. Yves-Marie Sevilla est là, journaliste politique à Boulevard Voltaire. Bonsoir Yves-Marie.
Bonsoir à tous.
Damien Chalamel est là aussi, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Vous l'attendiez, vous le connaissez, il est bien là.
Oui, bonsoir Marc. Bonsoir chers auditeurs. Vous, je suis très bien à gauche, très bien.
Vous pouvez...
À gauche de Marc Baudrier.
Voilà. Vous pouvez, chers auditeurs, nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes, comme d'habitude, les bienvenus, vous le savez. Au programme ce soir, un petit éditorial sur notre ami Xavier Bertrand. Au secours, la gauche des années 80 revient. Et puis notre grand dossier, ça sera un dossier France-Algérie. Retrouver l'histoire face à la mythologie anti-française. On recevra Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, pour son livre absolument passionnant, L'Algérie 1830-2026, Vérité et légende, un livre qui paraît, voilà quelques jours, chez Perrin. En deuxième partie, nous parlerons de l'ARCOM qui plonge dans le contenu éditorial et qui menace une chaîne de télévision, la chaîne CNews. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est une étape de plus. Nous, en troisième partie, nous aurons notre clin d'œil culture que vous attendez, c'est-à-dire nos recommandations, ce qu'on a vu, lu, entendu, ce qu'on vous recommande. Et auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine? Et je me tourne vers vous, Yves-Marie Sevilla, par exemple, vous qui avez brassé l'actualité toute la semaine. Qu'est-ce que vous en ressortez?
Écoutez, moi je voulais souligner l'étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, condamnation d'Éric Tegner qui a eu lieu hier, 18 juin, donc par le tribunal correctionnel de Bobigny. Donc le patron du média Frontière a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Dont 20 000
très lourde condamnation.
Voilà, très lourde condamnation, donc des dommages à intérêts à verser aux avocats plaignants. Et effectivement, il était accusé d'avoir livré à la vindicte populaire des avocats, puisque le Média Frontière s'est intéressé l'année dernière au business de l'immigration illégale, et notamment il s'est penché sur les avocats qui en droit qui sont spécialisés dans le droit de l'immigration.
Oui, et ce qui représente comme coût pour la France et pour revenu pour eux.
Hein. Considérable, puisqu'effectivement, s'il y a tout un mécanisme, un imbroglio judiciaire invraisemblable qui fait qu'un migrant, par exemple un clandestin, peut avoir tout un tas de procédures de recours pour empêcher une OQTF de lui être soumise, ensuite d'être appliquée, etc., etc. Et donc effectivement, vous avez une justice qui s'est organisée sur ce domaine, et des avocats, effectivement, se sont plaints d'être cités dans le magazine Frontière, et à ce titre-là, on portait plainte. Et aujourd'hui, il y a eu cette condamnation invraisemblable, d'autant que...
Hier jeudi.
Il se trouve qu'il faut aussi s'intéresser au profil étonnant du président du tribunal, le magistrat Youssef Badr, qui quand même a une partialité tout à fait étonnante, parce que c'est défenseur acharné du multiculturalisme de manière générale. C'est un admirateur avéré de Christiane Taubira, qui est garde des Sceaux, qui était quand même extrêmement engagé, qui a fait de la guerre contre les discriminations une véritable cause, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Pour une justice aux mille visages », donc qui milite effectivement pour que les étudiants, les enfants des banlieues issus de l'immigration puissent intégrer la justice, devenir magistrat, et lui-même le dit, il est rentré dans la magistrature sous les conseils d'un de ses professeurs pour changer les choses. Donc on a...
Ouais, c'est vraiment la figure du juge militant.
On a un juge absolument militant, c'est effectivement invraisemblable qu'il ait eu à juger une affaire pareille, avec les résultats très étonnants qu'on voit aujourd'hui. Et il y a une véritable levée de bouclier, de réaction, qui s'insurge contre une atteinte à la liberté de la presse, parce que c'est intéressant effectivement d'y revenir. Le jugement a été fait selon la loi Paty. Et donc effectivement, qui interdit la divulgation de données personnelles, le sait que c'est comme ça que ce malheureux professeur... Voilà, sur la jurisprudence Paty. Or, qu'a fait le Média Frontière ? Il a livré une liste d'avocats, mais comme peuvent le faire des journalistes d'investigation, qui donnent des noms propres parce qu'ils sont impliqués dans une affaire, dans un domaine, quel qu'il soit. Et vous aviez les noms des villes dans lesquelles... ses avocats travaillent, mais il n'y avait pas de données personnelles, pas d'adresse. Enfin, c'est un jugement que je trouve invraisemblable, et l'avis de notre éminent confrère juriste sera voilà, intéressant.
Vous m'avez fait la transition, c'est merveilleux. Damien Chalamel, Damien Chalamel.
Il faudrait inviter l'excellent Frédéric Pichon, qui est le conseiller d'Éric Tecner. Hein. Moi, j'y vois un signe de manifestation de l'extraterritorialité.
Maître Pichon, hein, qui est donc l'avocat de Tecner.
Ouais, donc moi, j'y vois un signe de l'extraterritorialité du 9-3. Voilà, dans, je ne sais pas, dans la République de Saint-Denis. Voilà. Non, mais je ne doute pas que ce jugement soit infirmé. Voilà. Alors, ce n'est pas une jurisprudence, hein, c'est une loi qui a été votée.
Oui.
C'est ce que vous disiez, hein, mais je corrigeais
Marc. Oui.
Lorsqu'il s'avère effectivement
pas trop fort.
la divulgation de données personnelles est susceptible de causer un risque à autrui. Mais là, on conçoit tout à fait que la chose est ridicule, puisque ses confrères qui exercent dans cette matière, bien évidemment que leurs données professionnelles sont parfaitement connues, et que leur spécialité est connue et ouvertement revendiquée par la plupart d'entre eux. Donc effectivement, ça n'a pas l'air de tenir debout.
Bon, ils les ont regroupés. Alors, et le président du tribunal...
De toute façon, il va faire appel, on imagine.
Oui, puis, il faut noter effectivement que là, la justice a été d'une célérité tout à fait exemplaire. Parce que le procès avait lieu en avril. Donc là, on a un verdict et un délibéré qui
plaignez-vous,
qui
a... plaignez-vous.
Il y a des différenciales de vitesse.
Voilà, la célérité des magistrats.
On critique la justice pour sa lenteur, alors que...
Et effectivement, je cite le président du tribunal qui a évoqué une liste accusatoire stigmatisante et qui évoquait une rhétorique virulente de la part du journal, du média. Mais donc, insistons, il n'y a pas de condamnation par rapport à une... diffamation, mais effectivement, c'est sur cette loi dite Samuel Paty, et c'est très inquiétant.
Et c'est important que vous le précisiez, parce que nos auditeurs comprennent bien, c'est qu'en réalité, ce qu'on reproche à Éric Tecner et à ce média, c'est une opinion. C'est un crime d'opinion. Et il se trouve qu'en France, on a une grande loi libérale, la loi du 29 juillet 1881, que bien évidemment, donc qui réprime essentiellement la diffamation, l'injure et la provocation à la commission de crimes et délits, pour faire simple, mais qui est enserrée dans un cadre juridique très précis, avec un délai de prescription, des règles très favorables à celui qui exerce sa liberté d'opinion. Et là, qu'est-ce que font mes confrères ? Bien évidemment... Ils se sont en réalité manifestement habilement servis de cette loi, en la détournant, à mon sens, de la volonté du législateur, parce que, selon toute vraisemblance, Éric Tecner aurait été relaxé parce qu'il n'y avait ni diffamation ni injure, simplement l'expression d'une opinion qu'il est parfaitement libre d'avoir. Et donc on a détourné cette loi pour aboutir finalement à censurer Éric Tegner et son média.
Allez,
frontière.
On reparlera absolument de la censure tout à l'heure. On boucle là sur ce dossier, qui est, mais on y reviendra parce que c'est très important. Damien Chalamel, est-ce que vous aviez une autre actualité à soumettre?
L'actualité,
à nos
il n'y en a qu'une, celle qui vous obsède, Marc, c'est la Coupe du Monde de football. Bien sûr.
Ça, ça m'obsède, c'est vrai. J'avais oublié.
Philippe Charles n'est pas là pour nous donner son opinion, malheureusement.
Et, le mot de la semaine, vous connaissez Monsieur Ousmane Sonko?
Ah non, c'est pas non, on n'a pas été Sonko présenté.
Non.
Mais vous avez tort, mon cher Marc, Monsieur Sonko, Ousmane, est le président de l'Assemblée nationale sénégalaise.
Ah, bien sûr.
Voilà. Et c'est lui qui est l'auteur de ce mot de la semaine, je le cite, ouvrez le guillemet, à propos du match opposant notre équipe de France à l'équipe sénégalaise. Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Voilà ce que nous dit Monsieur Ousmane Sonko. Donc en définitive, selon Monsieur Ousmane Sonko, c'est toujours l'Afrique qui a gagné. Alors bon, c'est une boutade, mais qui en dit long. Et si vous lisez un peu la presse étrangère, elle reflète aussi beaucoup l'analyse de certains.
C'est leur vision, elle est respectable. C'est ça que vous voulez dire.
Cette équipe de football, elle est effectivement la vitrine de ce que certains peuvent qualifier de submersion migratoire. Alors, pour le meilleur et pour le pire, là, en l'occurrence, pour le meilleur, puisqu'on a des champions, de toute façon, des athlètes de haut niveau, et qui, en plus, gagnent.
Qui repose pas spécialement sur l'immigration, qui repose sur un système de recrutement un peu international, on va dire.
Oui,
je ne suis pas un spécialiste, je m'aventure.
Vous avez quand même la nationalité.
Voilà. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des binationaux. On a d'ailleurs, je voyais le jeune Lucas Zidane Junior, lui qui joue dans l'équipe d'Algérie, qui est un franco-espagnol avec une ascendance paternelle algérienne, mais qui, pour les besoins de cette épreuve, se révèle plus algérien que jamais, au point de faire partie de l'équipe algérienne. Donc,
C'est assez intéressant parce qu'il est de ce point de vue-là, c'est représentatif de sa génération.
Bien sûr. Et je prenais cette... Bon, il y avait la boutade de cet homme politique sénégalais. Et puis derrière, il y a quoi? Il y a aussi les violences urbaines auxquelles on a assisté, qui elles aussi, sous prétexte de réjouissance footballistique, qui elles aussi sont le reflet. Il suffit de lire la presse étrangère, les images qui circulent de ces émeutes urbaines qui notamment jaillissent à la faveur de ces matchs. Ça aussi, c'est une image de la France et ça en dit long. Très bien le football. Hein.
On peut noter deux choses à mon sens.
Yves-Marie Sévillan.
Simplement, rapidement, effectivement, ils sont dans un état d'esprit de colonisé, dirais-je, revanchard. Hein. Et puis,
D'anciens colonisés
du côté du Sénégal. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que de tels propos seraient impensables.
Si c'était Bardella qui avait dit ça il y en aurait plein les jours,
c'est clair. Bien sûr, non mais là ce qui est incroyable, c'est que ce soit effectivement
Mais ces propos, moi, ne me choquent pas.
Bon. Non, mais ils sont impossibles à tenir en France.
On a bien compris, Damien Chalamel. On vous a saisi jusque dans vos sous-entendus. Hein? Voilà. Bon, très rapidement, ma petite actu, si ça vous ennuie pas trop. J'ai repéré dans un rapport de la Cour des comptes. Hein, c'est l'époque où tout le monde lit des romans, etc. Moi, je lis des rapports de la Cour des comptes.
Et vous donc, êtes suicidaire.
J'ai noté qu'il y a un rapport sur les grands chantiers culturels du ministère de la Culture qui explique que la France avait dépensé 2 milliards d'euros entre 2015 et 2025 pour restaurer ces grands monuments. Alors on parle là des grands chantiers, ce qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros de rénovation.
Rénovation patrimoniale ou...
Patrimoniale, rénovation patrimoniale pour ces grands chantiers culturels. Et c'est les mêmes grands chantiers culturels, ils vont compter 5 milliards d'euros pour la période 2026-2036. Pourquoi? Tout simplement parce que nos grands bâtiments culturels s'effondrent. Alors le problème... C'est que vous vous dites, bon, on peut bien faire ça pour le Louvre ou pour l'Opéra Bastille, alors c'est le cas, hein, et ils vont avoir besoin d'une partie des 5 milliards qui sont nécessaires. Mais le problème, c'est que la grande majorité des travaux et de l'utilisation de ce tarif, qui est quand même assez élevé, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il va aller à la rénovation du Centre Pompidou. Par exemple, ouvert en 1977, dont on peut dire que l'esthétique est contestable, peut-être, avec un peu d'objectivité, qui avait déjà d'ailleurs été fermé pour restauration pendant 5 ans, qui doit être fermé pour restauration pendant 5 ans jusqu'en 2030. Ça va aller aussi à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, dont personnellement je ne considère pas que ce soit un joyau architectural français, qui a été inauguré en 86 et qui va déjà coûter donc extrêmement cher aux contribuables. Et puis ça va aller aussi à l'Opéra Bastille, qui a été inauguré en 1989, et donc ces trois sites vont absorber une grande partie des dépenses de notre ministère de la Culture, qui donc pour ses grands travaux va consacrer 5 milliards d'euros entre 2026 et 2036, enfin doit les consacrer en tout cas. Alors que le Louvre et l'Opéra Garnier dont je parlais, ben eux ils trouvent des sponsors pour être rénovés et donc ils coûtent beaucoup moins cher à l'État. Comme par hasard, les trois autres en trouvent moins. Mais bon, c'est un hasard sans doute. Voilà, j'avais relevé ça dans ce rapport de la Cour des comptes. Yves-Marie Sevilla.
Oui, moi ce qui me sidère, c'est que bon, je suis un très mauvais scientifique, mais il faudrait faire un calcul sur. Vous parlez effectivement de bâtiments publics qui ont plusieurs décennies, et en l'occurrence, qui injecte, on y injecte des milliards, et proportionnellement, sur nos églises qui sont multicentenaires, il faudrait voir proportionnellement le coût
de ces bâtiments. Vous avez tout à fait raison, mon cher Yves-Marie. Combien d'églises multicentenaires est-ce qu'on rénoverait avec le coût de rénovation de la cité de la Villette, de Beaubourg ou de l'Opéra Bastille?
Il y a cet élément-là, Marc, mais moi je voulais aussi insister sur le coût un par un. Non pas combien d'églises aussi on pourrait rénover avec cet argent, mais combien le bâtiment a coûté in fine. Si vous prenez Notre-Dame de Paris, de sa construction à aujourd'hui, combien d'argent on a mis dedans? Bon, il se trouve
que
c'est incendie, la main, ça devient compliqué. Mais ouais. Si vous voulez, c'est les bâtiments publics modernes sont la plupart du temps, vous l'avez souligné, sont moches. Mais en plus, coûte un fric invraisemblable.
Absolument. Voilà. Mais ça a permis à quelques présidents de la République de s'offrir le luxe d'imaginer qu'ils laisseraient une trace dans l'histoire à travers ces bâtiments.
Et alors,
c'est sans prix.
Compliment en creux
très rapidement
de notre bien-aimé président Emmanuel Macron, qui nous a dispensé, à ma connaissance, d'un geste architectural. Il avait proposé de mettre une grande antenne sur Notre-Dame, une grande flèche, pardon, puisqu'il revenait à peu près au même. Mais en réalité, en bientôt 10 ans de présidence, il s'est abstenu. Donc on peut le féliciter.
Oui, sauf pour les vitraux de Notre-Dame.
Ah oui.
Ah bah si, ce sera son geste.
Ce sera son geste.
Les vitraux.
Damien Chalamel fait un compliment au président de la République, on peut le souligner, plutôt que de rester sur le négatif.
Une fois toutes les 30 ans, ça mérite d'être souligné.
Pour tout ce dont il peut s'abstenir, parce qu'il peut être toujours pire.
Allez, édito. Xavier Bertrand, au secours, la gauche des années 80 revient. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ces quelques mots envoyés par la journaliste Géraldine Vosner, rédactrice en chef du Point, à Xavier Bertrand sur X, ont piqué au vif le probable candidat à la présidentielle qui rêve de ratisser les voix du centre. Sa réplique prend la forme, sur le même réseau X, d'une interminable philippique molle, sourdement lamoyante, une mélopée souffrante et fatiguée, dopée à la bonne conscience guimauve et à l'indignation feinte. On y retrouve le bon vieux temps de l'antiracisme bêta-sous, les victimes d'amalgame, je cite, les gens jugés à travers leur couleur de peau, les réflexes de généralisation, la méchante stigmatisation collective, le vilain sentiment d'exclusion ou même la volonté de combattre toutes les formes de discrimination, tout ça entre guillemets. C'est une Madeleine de Proust, ou plutôt un disque de Patrick Bruel, sucré, sans saveur, démago, plein de moraline à 2 centimes et un peu gênant depuis qu'on sait que tout cela a mal tourné. Xavier Bertrand incarne à merveille le profil type du démolisseur impuni de son propre pays. Dans Le Prince, Machiavel explique de l'Italie « Il fallait qu'elle fût sans chef, sans institution, battue, déchirée, envahie et accablée de toute espèce de désastre pour que quelque génie puisse s'illustrer. » Xavier Bertrand s'occupe du premier volet. Installer le désastre. Voilà un homme qui vit des subsides de l'État depuis son élection comme conseiller général de l'Aisne le 27 mars 1998. Il a été député, secrétaire d'État, ministre de la Santé, ministre du Travail, secrétaire général de l'UMP, maire de Saint-Quentin. Il occupe la présidence du conseil régional des Hauts-de-France depuis plus de 10 ans. À cet édile, il n'a manqué ni les postes prestigieux, ni l'argent du contribuable. Qu'en a-t-il fait ? Ce dimanche 14 juin, interviewé par BFM TV, Bertrand se révèle plus vrai que nature. « Ce qui me marque aujourd'hui, dit-il, c'est qu'il est difficile de vivre en France. » Alors on se dit qu'il pense, pour une fois, aux victimes de l'ensauvagement, aux familles endeuillées, aux femmes traumatisées, aux retraités sans moyens, aux petits revenus, aux Français des gilets jaunes, aux agriculteurs, mais pas du tout. « Ce qui me marque aujourd'hui, dit-il, c'est qu'il est difficile de vivre en France quand on est musulman. » Juif, quand on n'est pas blanc de peau, quand on ne porte pas un prénom du calendrier grégorien. Nous, ce qui nous marque, c'est qu'il est difficile de vivre en France quand on est français, ou français juif, dans un pays où les amis de M. Bertrand ont ruiné l'agriculture, l'industrie, le commerce, détruit la culture commune et le sentiment national, installé une immigration non maîtrisée et une insécurité chaque jour plus monstrueuse. Avec ce bilan, on lui recommanderait volontiers la discrétion, l'effacement, le regret et la repentance. C'est à la mode, la repentance. En attendant que quelques génies puissent s'illustrer, comme disait Machiavel. Voilà. Question, ce qui me marque, c'est pas l'indifférence au sort des Français, par hasard Non.
Non, mais moi, je me dis que vraiment, ce qui me frappe, c'est l'insignifiance du personnage. Hein. C'est vraiment l'incarnation chimiquement pure de la ringardise. Hein. C'est-à-dire que d'un homme qui n'aura rien compris, en fait, dans sa vie politique, et qui se brandisse l'idéologie victimaire avec 40 ans de retard pour, passez-moi l'expression, mais essayer de faire le malin. Parce qu'en fait, j'imagine que peut-être c'était probablement le but de sa saillie, qui manifestement était préparée. Mais en dit long sur la pauvreté, la nullité du personnage. Je sais que Nicolas Sarkozy le renvoyait à sa profession, c'était pas très gentil, d'agent d'assurance à Arras, je crois. Bon. Mais c'est vraiment,
c'est quand même
non,
sous le président Sarkozy qu'il est.
C'est peut-être c'est le chant du cygne, effectivement, de cette moraline antiraciste dans laquelle nous avons grandi.
Qui fait un retour un peu surprenant.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu.
On est complètement dehors.
Tellement déplacé. Allez. Et puis alors, son allusion, je vais vous dire, son allusion à l'antisémitisme, quand on sait de qui nos compatriotes de confession juive sont essentiellement, sinon les quasi victimes. Exclusivement les victimes.
Ouais, exactement.
C'est assez pénible à entendre. Voilà. Bon. Ouais.
Quel jésuitisme. Marie Sévillard.
Non, mais je serai très rapide.
Deux mots.
Je dirais simplement qu'à mon sens,
à notre grand dossier,
ce genre de propos servent le Rassemblement national. Une personne qui a des vraies convictions de droite n'entend pas de tels propos aujourd'hui en France.
Ouais, vous avez absolument raison, à mon avis. Allez, tout à l'heure, nous allons parler de l'ARCOM, qui plonge dans le contenu éditorial et menace une chaîne de télévision, la chaîne CNews, c'est nouveau, c'est un cran nouveau. Nous aurons au téléphone Gilles Penel, député européen du Rassemblement national. Au téléphone, nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture, mais d'abord, France-Algérie, retrouver l'histoire face à la mythologie anti-française avec Xavier Driancourt qui est ici chez nous.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Dans l'actualité française, on ne peut pas dire que les ressortissants algériens occupent toujours le beau rôle. Lorsqu'on en parle, c'est le plus souvent pour évoquer les violences, les pillages, le non-respect des OQTF, où ce chiffre, près d'un homme emprisonné sur quatre en France, est aujourd'hui étranger, la nationalité étrangère la plus présente dans nos prisons, la nationalité algérienne. Si on ajoute au dossier les provocations incessantes du pouvoir algérien envers la France, son mépris fin au réel et la veulerie du pouvoir français, on a au moins une partie de la recette des relations explosives entre ces deux pays que vous connaissez bien, Xavier Driancourt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et de l'ENA, vous avez fait une carrière brillante de diplomate, vous avez été consul général de France à Sydney, je l'ai appris en regardant votre biographie, parce qu'on parle beaucoup de vous pour l'Afrique du Nord, mais moins de pour Sydney, conseiller technique pour les affaires diplomatiques auprès d'Alain Juppé, qui était Premier ministre entre 1993 et 1995, vous étiez ambassadeur de France en Malaisie, et surtout deux fois ambassadeur de France en Algérie, de 2008 à 2012, et puis de 2017 à 2020. C'est bien ça, je n'ai pas fait l'erreur. Voilà, alors vous avez écrit de nombreux livres, notamment en 2022, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, c'est aux éditions de l'Observatoire. En 2023, vous avez écrit dans une revue, pour la revue Fondapol, Politique migratoire, que faut-il faire de l'accord franco-algérien de 1968, qui a beaucoup marqué, beaucoup. Voilà, qui a suscité des débats infinis et extrêmement utiles. Et en 2026, il y a quelques jours, le 4 juin, si mes informations sont bonnes, vous avez publié un livre absolument passionnant, je dois le dire, je l'ai lu entièrement, qui s'appelle « L'Algérie, vérités et légendes », qui est publié chez Perrin. 231 pages qui se lisent comme un roman. Alors, on va parler avec vous d'Emmanuel Macron et de l'Algérie. On commencera comme ça. On parlera de l'Algérie et de vous aussi. Parce que vous avez vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur ce pays et j'imagine assez que vous devez beaucoup aimer ce pays. On verra, vous nous le direz. On parlera de la colonisation, des déchirures franco-algériennes. Mais d'abord, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a finalement été libéré. Hein, c'était le 12 novembre 2025, presque un an après son arrestation à Alger pour atteinte à l'unité nationale, en raison de propos sur l'appartenance de l'Ouest algérien au Maroc. Mais le journaliste français Christophe Glaise, lui, il a été condamné à 7 ans de prison le 3 décembre dernier par la cour d'appel de Tizi Ouzou. Est-ce qu'il y a question, Xavier Driancourt, y a-t-il des leçons à tirer de ces deux affaires, Sansal et Glaise ?
Oui, il y a des leçons à tirer parce que, d'abord, pour Boualem Sansal, bon, on a vu que le gouvernement n'a pas particulièrement été actif dans ce dossier. C'est parce que d'autres groupes, comités ou personnalités se sont mobilisés en faveur de Boualem Sansal. Et ça a permis sa libération parce que l'Algérie, finalement, a cédé via l'Allemagne à cette libération. Et pour Christophe Glaise, à rebours, il n'y a eu aucune mobilisation. Le gouvernement français a toujours dit « attendez, n'en parlez pas, il faut être discret, il faut avoir une diplomatie de dialogue, etc. »
Comme il l'avait fait pour Sansal.
Comme il l'avait fait pour Boualem Sansal. Mmh. Mais comme pour Christophe Glaise, il n'y a pas eu de mobilisation comme il y en avait eu pour Boualem Sansal. Il est, depuis 2 ans, en prison et il y est sans doute encore pour un certain moment.
Je
le crains.
Oui, oui, il y a des chances, mais c'est vrai que le gouvernement a tenté d'étouffer ces affaires, avec en laissant entendre que la diplomatie allait tout régler en réalité.
Et puis on a parlé dans l'affaire Christophe Glaise, on a appris son emprisonnement seulement lors du premier procès de Boualem Sansal en avril 2025, en avril 2025. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que Christophe Glaise était, lui, emprisonné depuis déjà
absolument, c'est vrai, vous avez raison, on l'a découvert à ce moment-là. Damien Chalamel.
Oui, alors, bon, j'ai vraiment apprécié votre ouvrage, qui est extrêmement stimulant, surtout dans sa partie, je dirais, peut-être moins historique, au sens d'une histoire de remontant à 1830, on va dire, mais sur les dernières décennies. Et alors, cette affaire, notamment Glaise et l'affaire Boualem Sansal, sont traitées dans un chapitre. Et ce que vous dites, et qui est vraiment, vraiment intéressant, nouveau, c'est à quel point, en réalité, donc on comprend bien que cet écrivain et ce journaliste sont instrumentalisés, leur destin, leur condamnation sont des manières de régler... pour le régime algérien en place de régler son compte à la France. Et vous montrez bien qu'en réalité, derrière ce système, mais c'est surtout une volonté du président Tebboune et de son entourage, en rupture d'une certaine manière, ou dans une continuation, mais avec quand même malgré tout une patte Tebboune, qui vient rajouter dans ce jeu, dans cette surenchère de tension et de défiance vis-à-vis de la France, C'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressé. C'est
le... Mais je pense que c'est le problème du reste du gouvernement français qui vit encore, si je puis dire, sur le logiciel Bouteflika, en croyant que Tebboune est le successeur de Bouteflika. En réalité, ce sont deux systèmes différents. Tebboune a été imposé par l'armée, alors que Bouteflika, il avait mis ses conditions en 1999 pour revenir en Algérie. Tebboune, c'est un autre système qui n'a rien à voir avec Bouteflika. Et dans le fond, c'est le Bouteflika, je suis sûr, n'aurait jamais fait arrêter Christophe Glaise.
C'est ce que vous écrivez, oui. Et alors, je prolonge ma question. Donc, est-ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que, notamment, l'armée, plus que jamais, et instrumentalise le pouvoir, et plus que jamais, on assiste à un jeu d'ombre.
Je résume, et je crois d'ailleurs que dans son papier du Figaro, dont on parlait tout à l'heure, Yves Tréhard reprend cette phrase, le pouvoir de l'armée, c'est dans le fond de choisir et nommer un président de la République et de mettre fin à son mandat. Parce qu'aucun président algérien, depuis 1962, n'a terminé son mandat. Ils ont tous été liquidés, tués, mis au rancard, démissionnés. Et donc, voilà le pouvoir majeur de l'armée qui est de plus en plus vrai et qui s'exerce vis-à-vis de Tebboune.
Extraordinaire. C'est le rôle du Parlement dans une démocratie parlementaire. Là, c'est l'armée.
On vit encore une fois à Paris dans le logiciel Bouteflika.
Yves-Marie Sévillan.
Oui, Xavier Diancourt. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement Tebboune, M. Tebboune, représente l'état d'esprit du peuple algérien, notamment dans ces liens, dans cette tension qu'il peut y avoir dans la relation franco-algérienne ?
Non, je ne crois pas. Avec des nuances, je dis je ne crois pas, parce que les Algériens, et j'en connais beaucoup, et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup d'amis algériens et j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour ce pays. Mais le régime algérien passe son temps à critiquer la France, à endoctriner les écoliers sur la rente mémorielle, comme disait Emmanuel Macron. Donc tout ça finit par entrer dans la tête des gens. Que la France, c'est l'ennemi, que la colonisation... ça a créé tous les malheurs de l'Algérie, que la France doit s'excuser, que la France doit indemniser l'Algérie. Ça finit par entrer dans la tête des gens. Mais les Algériens d'Algérie, alors je mets à part les Algériens ou franco-algériens de France, c'est pas exactement la même chose, mais les Algériens d'Algérie, ils ont tous de la famille, un frère, un oncle, une grand-mère en France, et leur rêve à tous, c'est de venir... soit définitivement, parce que le régime Tebboune ne leur offre rien, soit au moins temporairement voir leur mère, leur grand-mère, leur cousin ou leur copain en France.
Donc c'est une vraie schizophrénie. Il y avait un essayiste,
Damien Chalamel,
une boutade, qui disait « être algérien, une maladie mentale ». Bon, c'est une boutade, mais ça veut dire qu'il y a une forme effectivement de schizophrénie.
Oui. Vis-à-vis de la France.
Vis-à-vis de la France.
Le livre de Pierre Vermeren qui est sorti récemment, France-Algérie, une relation pathologique, il explique bien cela.
Absolument. Globalement, Xavier Driancourt, comment est-ce que vous définiriez, parce qu'on y est là sur ce sujet, l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis du pouvoir algérien ? Il a fait des visites d'État. Oui. Est-ce que c'est une attitude de soumission complète ? Est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Vous connaissez ses déclarations sur la colonisation. C'est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. Ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses, etc., etc. Quelle est la relation de Macron ? Est-ce qu'elle est définissable,
écoutez,
déjà ?
Écoutez, je ne suis pas dans les secrets du président de la République, mais enfin, pour l'avoir rapproché, avoir travaillé plusieurs années sous son autorité, je pense que, et pour l'avoir vu à plusieurs reprises, et notamment en Algérie, je pense que dès le départ, dès 2017, il a fait le pari algérien. De 2017 à 2024, il a fait le pari algérien en pensant que lui plus fort sans doute que Charles de Gaulle, que François Mitterrand ou que Jacques Chirac, réussirait là où ces derniers avaient échoué, c'est-à-dire réconcilier la France et l'Algérie, et que voilà, ça laisse faire naturellement parce que lui, il est plus fort et qu'il n'a pas connu la guerre d'Algérie. Et en réalité, donc, il a fait tous ces gestes mémoriels, comme on dit, et puis il s'est aperçu que Tebboune et le régime algérien n'ont jamais renvoyer l'ascenseur. Jamais. Au contraire, ils en ont rajouté à chaque fois. Au contraire, ils ont instrumentalisé les émeutes de juin 2023, il y a 3 ans maintenant, au moment de Naël, l'affaire Naël. Ils sont intervenus, ils ont pris Boualem Sansal, ils ont critiqué Kamel Daoud, etc. Donc ils en ont toujours rajouté en sens inverse.
Vous vous souvenez du gaz ? On espérait beaucoup du gaz algérien.
Ben oui.
On n'a rien vu. Hein.
Et puis finalement, en 2024, le président de la République, lassé en quelque sorte de cette inertie algérienne, s'est dit, sans doute aussi pour d'autres raisons, s'est dit, bon, il faut se retourner vers le Maroc, avec lequel il s'était brouillé depuis l'affaire Pegasus. Donc, il a reconnu, le Maroc a mis ses conditions, c'est-à-dire signé là en bas à droite sur la reconnaissance du Sahara occidental marocain, et ça a provoqué la crise que nous connaissons actuellement depuis
avec
juillet
l'Algérie.
2024.
C'est ça, et dont on a un mal fou à se sortir. Damien Chalamel.
Non, mais j'écoutais les explications très intéressantes. Alors, ça révèle effectivement à la fois l'arrogance et la nullité du personnage de la part d'Emmanuel Macron. Parce qu'effectivement,
on y revient.
Mais enfin, j'ai repensé que s'agenouiller comme ça devant le régime algérien allait pouvoir inaugurer de nouvelles relations. Ça témoigne. Enfin, franchement, on se dit que là aussi, encore, c'est un enfant, qui n'a pas grandi. C'est-à-dire qu'il est encore, si vous voulez, on pourrait penser que un homme politique de son âge, d'une quarantaine d'années, soit habité par le sentiment qui habite la plupart des Français vis-à-vis de l'Algérie, c'est-à-dire l'indifférence. Alors, ils étaient déjà indifférents à leurs compatriotes en 62, qui étaient de l'autre bord de la Méditerranée, mais ils le sont encore plus, la réalité, 60 ans après.
Est-ce que c'est le cas,
je dirais
Xavier
Driancourt. Ce qui est le plus gênant, c'est dans le fond l'incohérence
le
de
en même
le
temps.
Politique.
Oui,
le en même temps, c'est-à-dire le pari algérien fait en 2017. En même temps, il faut rappeler qu'en octobre 2021, il a fait des déclarations invraisemblable dans le journal Le Monde. Ce n'était pas prévu, m'a dit le journaliste du Monde, que ça soit publié. Mais c'est dans cette interview qu'il a parlé de rente mémorielle, qu'il a parlé du système Tebboune, qui est un garçon sympathique, mais enfin, qui est encadré par des militaires. Il a parlé de la falsification de l'histoire par le gouvernement algérien. Donc ça, c'est 3 ans après 2017. Après, comme pour s'excuser, il se précipite, à Alger, rappelez-vous, à Alger et à Oran, en août 2022, pendant 3 jours, avec des embrassades, un nouveau texte, un partenariat d'exception, la commission d'historiens piloté par Benjamin Stora. Et puis après, on arrive...
17 ministres
qui
vont là-bas,
ministres.
Je me souviens.
Et
17
après,
ministres.
Avec Mme Borne, ça, c'était entre-temps,
voilà,
Mme
voilà.
Borne. Et puis après, on arrive à 2024, donc à la crise avec le Maroc. Donc. Et puis aujourd'hui, on se dit, mince, on est quand même mal avec l'Algérie qui nous piège par les OQTF, etc. Et donc, on revient vers l'Algérie. On envoie d'abord M. Barrot, puis M. Nunes, puis Mme Ruffo, puis M. Darmanin, puis Mme Royal, etc. Donc, on est... c'est ça qui me gêne le plus.
C'est l'aplatissement sans fin.
Non, c'est l'absence de ligne de conduite.
Oui, l'absence de ligne. En tant que diplomate, c'est votre spécialité. Et en politique étrangère, comment avoir une cohérence sans continuité.
Il faut d'abord avoir une bonne connaissance de l'histoire, donc je suggère au président de la République et à M. Barrot de lire ce livre. Il faut avoir une bonne connaissance de l'histoire et puis réaliser encore une fois que le régime algérien, ce n'est pas une démocratie qui fonctionne comme la nôtre, avec les mêmes règles, les mêmes codes. Mmh. Et dans le fond, ils ont compris que comme la France ne réagit pas, ils peuvent continuer à tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse. Mais elle ne casse jamais parce qu'on est toujours à
mais
céder
oui,
en
mais
avance.
Oui, oui, il fait le chien-chien, c'est extraordinaire. Alors, vous racontez très bien qu'au départ, il tente d'esquiver le débat, Macron, par des pirouettes. Alors, il dit, par exemple, la France a apporté la déclaration des droits de l'homme en Algérie, mais elle a oublié de la lire.
Et en fait, il n'a prononcé cette phrase sur la colonisation qu'une seule fois. Il ne l'a jamais répétée depuis. Il a utilisé toujours des périphrases comme celle-ci, mais il n'a jamais répété cette phrase.
C'est ça.
Comme s'il s'était rendu compte qu'il est allé un peu loin.
Si on voulait ajouter, moi je préfère le mot d'Hubert Védrine qui dit que la France, dont on dit qu'elle est le pays des droits de l'homme, elle est surtout le pays de la déclaration des droits de l'homme. Mais ça vaut pas que pour l'Algérie. Mais moi, je voulais ajouter quand même, malgré tout, vous utilisez le terme que j'ai bien aimé, l'adjectif, la sinuosité de la politique française.
Voilà. Ouais.
Bon, c'est vraiment, bon, voilà, moi, je suis pas diplomate et voilà. Donc, moi, je dis que c'est vraiment une parenthèse inconséquente. Mais en réalité, je me demande, malgré tout, si Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans la politique sadomasochiste, quasi sadomasochiste qui caractérise non pas les relations franco-algériennes, ou alors, je voudrais vraiment dire, des gouvernants, hein, pas des peuples, hein, mais de ces quelques dernières décennies. J'entends, je pense particulièrement à la séquence Sarkozy-Hollande, voilà, et notamment à l'utilisation à outrance, de manière totalement déplacée, de cette politique mémorielle, comme si on allait régler nos difficultés actuelles.
On va en parler.
Enfin, de ce point de vue-là, il y a une certaine continuité. Mais dans l'échec,
on va reparler de la repentance.
Emmanuel Macron, Damien François Chalamel. Hollande et même Nicolas Sarkozy.
Voilà, je rappelle que nous sommes avec Xavier Hédriencourt, qui a publié le 4 juin, donc c'est tout récent, un livre absolument passionnant, très profond, sur les relations de la France avec l'Algérie. L'Algérie, vérités et légendes, c'est chez Perrin. Je voudrais vous demander juste après ça si on peut échapper à la repentance.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Oui, peut-on échapper à la repentance, Xavier Hédriencourt ? Vous écrivez dans votre livre « Dans le monde, tous les gouvernements européens suivaient plus ou moins la même voie ». En 2004, les Allemands présentaient leurs excuses au RRO et au Nama de Namibie. En 2008, l'Italie à la Libye et le gouvernement australien aux populations aborigènes. En 2011, les Pays-Bas aux victimes des tueries commises en Indonésie en 1947. En 2013, le gouvernement britannique, etc. etc. Donc la France s'inscrit dans cette espèce de longue traînée. Est-ce qu'on peut y échapper ?
Et Tebboune s'est dit, il faut que la France fasse comme les autres. Parce qu'on est dans la vague de l'histoire révisionniste, woke, donc la culpabilisation qui a commencé, oui, il y a une quinzaine d'années, dans le fond. Et nous... malgré notre histoire un peu particulière avec l'Algérie, on s'est lancé là-dedans, mais pas suffisamment au gré de Tebboune.
Jamais
suffisamment, parce que il faudrait faire comme les pays que vous avez cités, c'est-à-dire s'excuser, voire indemniser, et s'excuser encore davantage, puisque nous avons fait les essais nucléaires, comme me l'avait rappelé Tebboune, avec l'autorisation du gouvernement algérien de l'époque, en 1962.
Bien sûr, incroyable.
Bien sûr, puisque Reagan, c'est en 66.
Non, Reagan, c'est en 60. On est encore en France, le Sahara français.
Mais il y a malgré tout des expériences.
Mais les accords d'Évian prévoient que la France pourra continuer les essais nucléaires jusqu'en 1967.
Ouais. L'aplatissement pathologique. Yves-Marie Sévillan.
Oui, monsieur Delancourt, est-ce que vous pensez... on a un petit peu de recul, même si la période a été très courte, que l'action de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur a apporté des fruits, ou peut-être a été un exemple de politique un peu ferme que la France peut avoir vis-à-vis de l'Algérie quand elle ne effectivement respecte pas ses obligations, et il y en a beaucoup différentes.
Oui, Bruno Retailleau, comme ministre de l'Intérieur, a eu raison de mener cette politique, mais le problème, c'est qu'il n'a pas été autorisé à la mener. Donc je dis oui, il faut une politique de fermeté, mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas utilisé parce qu'il a été empêché à chaque fois par M. Barrot, au nom de la diplomatie du dialogue, et par l'Élysée, jusqu'au jour, rappelez-vous, là aussi, la sinuosité de cette politique, où en août dernier, le président de la République écrit à M. Bayrou, Premier ministre,
Absolument.
Pour dire « Ce gros gnieux, vous n'avez rien fait vis-à-vis de l'Algérie. »
Il est temps de serrer la vis.
Il est temps de serrer la vis. Et puis, trois semaines après, il change de politique en nommant M. Nunez, ministre de l'Intérieur. Donc, voilà, c'est
on est dans le domaine
de sinuosité.
Réservé.
Non. Non,
du président de la République.
Non, faut pas avoir une conception hyper étendue du domaine réservé. Le domaine réservé, c'est la politique étrangère, mais il faut rappeler aussi que la reconnaissance du Sahara occidental marocain et la crise avec l'Algérie, ça a été décidé sous un gouvernement démissionnaire, le gouvernement de Gabriel Attal, après la dissolution. Le gouvernement de Gabriel Attal était chargé d'expédier les affaires courantes et un éminent juriste constitutionnaliste comme Jean-Éric Schöttl, secrétaire général du Conseil constitutionnel, que j'ai interrogé là-dessus, m'a dit « Oui, un gouvernement démissionnaire ne peut pas prendre, même si c'est l'autorité du président de la République, une décision d'aussi grande importance que la reconnaissance du Sahara occidental marocain, parce qu'elle emporte des conséquences en matière d'OQTF, en matière de laissez-passer consulaire, etc. Donc, juridiquement, même si personne ne l'a relevé, mais juridiquement, la décision qui a mis le feu aux poudres à la crise actuelle franco-algérienne, elle a été prise par un gouvernement qui n'avait pas ce pouvoir, puisque le seul pouvoir qu'il détenait, c'était d'expédier les affaires courantes, qui est une notion juridique très forte.
Oui, vous avez raison de le rappeler. C'est vrai que ce n'est pas rappelé suffisamment. Monsieur l'ambassadeur, parlons un peu de vous. Je rappelle que nous sommes avec Xavier Driancourt pour son livre « L'Algérie, vérités et légendes », c'est chez Perrin, qui vient de paraître, avec Yves-Marie Sevilla et Damien Chalamel autour de moi. Je voudrais qu'on parle de l'Algérie et de vous. Parce que bon, vous êtes détesté par le pouvoir algérien, c'est peu de le dire, mais on sent chez vous, à travers ce livre notamment, beaucoup d'amour pour ce pays, en réalité, que vous connaissez extrêmement bien, dont vous connaissez parfaitement l'histoire, vous racontez énormément de choses dans ce livre. Est-ce qu'on se trompe ou pas? Non, et quelle est la nature de cette affection, si c'est le cas?
C'est exact, j'ai beaucoup. Ouais. C'est le seul pays dans ma carrière diplomatique où j'ai gardé beaucoup d'amis. Hier encore, j'étais avec des amis algériens à un mariage. Voilà, j'ai beaucoup d'amitié pour les Algériens, mais ce régime est insupportable.
Alors, moi, ça m'amène justement à me poser une question. C'est vos analyses, puisque vous avez manifestement une amitié avec un certain nombre d'Algériens ou de Franco-Algériens, est-ce que vos analyses sur ce régime, est-ce que vous les partagez avec des Algériens?
Oui. Et je peux vous dire que par des messages, y compris des gens proches du pouvoir ou des politiques algériens, m'encouragent à continuer en me disant « Vous êtes le seul à dire les choses clairement.
» Mais au point, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour, ces analyses seront partagées, non pas par une majorité, mais qui pourront être proclamé haut et fort un jour en Algérie?
Est-ce qu'il y a une intelligentsia algérienne active?
Non, parce que l'intelligentsia algérienne est en France, en réalité, en France ou au Canada ou en Allemagne. D'accord. Ou en Espagne aussi beaucoup, mais elle n'est pas en Algérie. Leur régime Tebboune a véritablement muselé l'opposition. Et comme je l'ai dit dans une interview, je ne sais plus où, récemment, au Figaro ou au Journal du Dimanche, au JDD, oui. Le régime Tebboune ou le régime algérien, moi, je le vois durer 30 ou 40 ans.
Ah
alors
oui.
Justement, hier, un ami
quand
algérien...
Quand même, c'est long, 30 ou 40 ans. Je ne sais pas si la 5e République durera autant.
Mais pour deux raisons. Parce que d'abord, il a réprimé toute opposition. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à partir, venir en France ou en Espagne. On les laissera partir. Ils viendront foutre, pour certains, le bazar chez nous. Et deuxième raison, c'est que l'Europe et la France, au premier plan, ne disent jamais rien. Tous les dirigeants européens vont à Alger, Madame Meloni, Monsieur Sanchez, le pape, les dirigeants français. Donc, pourquoi changer le régime et pourquoi introduire un peu de liberté. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il durera encore 30 ou 40 ans. Et pour la petite histoire, il paraît que cette phrase que j'ai prononcée, qu'a repris le JDD, elle a fait très plaisir à Alger parce que certains se sont dit « Mais Driancourt, finalement, il est très
il
lucide. »
Il est pas si mal.
Alors, moi, je vous aime bien.
J'utilisais tout à l'heure...
On a fait une campagne présidentielle, presque.
J'utilisais tout à l'heure
Damien Chalamel.
La formule qui vaut ce qu'elle vaut de la relation sadomasochisme, parce que dans le sadomasochisme, tout le monde sait qu'au départ, il y a une victime qui est consentante. Et c'est ça, jusqu'à ce que la victime dise non. Bon. Mais ça ne joue que parce que la victime est consentante. Et là, moi, la question que je me pose, c'est qu'on a quand même une échéance électorale majeure dans quelques mois, et en France... Et je me dis qu'il y a peut-être là l'occasion de changer de paradigme.
Ouais.
Vous voyez, et je dis, et en France, et ce qui est intéressant de ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement quand la France s'agenouille devant le pouvoir algérien, c'est aussi également tout l'Occident qui n'arrête pas de battre sa coule pour des crimes hypothétiquement
commis par... Je ne sais pas si les autres pays d'Europe sont aussi soumis.
Non, mais ils n'ont pas la même histoire.
Je veux dire, les Anglais...
vous êtes le meilleur.
Même les Allemands, même les Italiens, avec la Libye, l'Éthiopie, etc. On n'en finit pas, si vous voulez. Le fardeau de l'homme blanc, j'ai l'impression que même, malgré tout, il y a l'amorce d'un cycle qui se clôt. Et dont les élections, que ce soit en Italie ou ailleurs, ou bientôt en Allemagne, peut-être bientôt au Royaume-Uni, même d'une certaine manière aux États-Unis, il y a peut-être là l'occasion d'un vrai changement et d'une vraie.
Est-ce qu'un cycle se clôt, Xavier Driancourt ?
Du point de vue de l'Occident, j'entends, et de la France en particulier.
Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que la question algérienne, je dirais, c'est une question à tiroir. Il y a des tiroirs qui s'ouvrent, immigration et la question migratoire au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en France, elle se pose. Et donc, l'Algérie, on tombe tout de suite sur le dossier algérien. Et deuxième chose qui permet peut-être un changement de politique, c'est, vous le disiez tout à l'heure, la note que j'ai publiée il y a 3 ans sur l'accord franco-algérien, qu'aucun homme politique ne connaissait. Mais depuis, ils ont tous découvert...
C'est vous qui me l'avez fait découvrir. Voilà. Jamais je n'avais vu cette note.
Ils ont découvert tout cela et tous demandent l'abrogation de cet accord exceptionnel avec l'Algérie. D'ailleurs, une résolution a été votée à une voix de majorité en novembre dernier à l'Assemblée nationale pour l'abrogation de... cet accord.
Oui, mais il n'est pas abrogé, cet accord.
Non, parce que ce n'est qu'on est dans le domaine réservé, effectivement. C'est ce qu'a dit le président de la République tout de suite. De quoi
ce qui n'existe pas dans la Constitution, le domaine réservé.
Pouvoir algérien se braque contre...
Le pouvoir algérien est très contradictoire sur cet accord. Tebboune a dit dans le Figaro, il y a 3 ans, dans une interview, il a dit « Mais ces accords, ils sont sacrés comme les accords d'Évian ». Et dénoncer l'accord de 68, c'est violer les accords d'Évian, comme si eux ne les avaient pas violés. Et puis, en même temps, ils disent « cet accord, il est vide de sens, on peut le dénoncer ». Ils sont parfaitement contradictoires. En réalité, je surveille souvent la presse algérienne, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, parce que ça permet à tout le monde de venir faire des...
Ils sont incroyablement avantageux.
Mais ils miment le détachement, pour nous éloigner du sujet. Yves-Marie Sévillien.
Oui, monsieur l'ambassadeur, effectivement, vous faisiez allusion à cette proposition de résolution qui était présentée à l'Assemblée nationale par le Rassemblement national.
Il y en avait une quelques mois avant par LR,
qui avait été
rejetée à ce moment-là.
Voilà, mais parce que vous avez toujours des arrangements politiciens et qui s'arrangent pas les uns ou les autres de voter pour l'un ou pour l'autre, c'est selon au gré de leur bon vouloir. Mais là, cette fois-ci, exceptionnellement, ça a été voté. Le Rassemblement national est un parti qui aspire aux plus hautes fonctions. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il aura cette capacité? On sent une volonté politique, mais est-ce qu'il y aura cette capacité d'entrer dans un rapport de force et de remettre véritablement en cause ces accords franco-algériens de 68 que tout le monde en soi dénonce, une majorité, une part importante de la partie politique, voilà, mais où rien ne se passe. Est-ce qu'on peut imaginer qu'enfin quelque chose de concret se déroule?
Je pense que la pression sera telle qu'il faudra le faire. Il y a quand même une quasi-unanimité du Rassemblement National jusqu'à Gabriel Attal.
C'est pas mal.
Hein. Donc, c'est pas mal. Il n'y a que les socialistes et LFI qui, pour des raisons évidentes, sont contre. Je pense que ça se fera, oui. Parce que ça va être... L'Algérie et tout ce qui tourne autour, encore une fois, les tiroirs, comme je dis, ça va être au cœur de la campagne électorale.
Comme l'ensemble de la politique migratoire.
Oui, comme l'ensemble de la politique migratoire.
Allez, on va rester avec vous, Xavier Driancourt. On parle de votre livre « L'Algérie, vérité et légende » paru chez Perrin début juin, tout récemment. Livre absolument passionnant, 231 pages, indispensable pour bien comprendre à la fois l'histoire de France, la mentalité algérienne, les points de conflit. Vous faites le point sur énormément de choses. Je voudrais citer quelques titres de chapitres. « L'Algérie a-t-elle abandonné son héritage chrétien ?» Intéressante question. Les intellectuels français ont-ils joué un rôle décisif dans les années 54-62? De Gaulle a-t-il compris l'Algérie? À chaque fois, votre réponse est assez surprenante. C'est pas du tout celle qu'on pourrait imaginer. C'est plus subtil. La guerre d'Algérie a-t-elle été perdue par l'ONU, demandez-vous? Vous parlez de la décennie noire, etc. On va y revenir. Je voudrais qu'on parle avec vous un petit peu de la colonisation, de cette espèce de plaie qui n'en finit plus de purulé juste après ça.